suis Gaël Charbot, je suis directeur artistique de l'édition 2018 de Nuit Blanche. Et mon rôle consiste à imaginer cette Nuit Blanche, à en établir les parcours géographiques, à inviter les artistes et à travailler avec les artistes pour que cette Nuit Blanche soit la plus réussie possible. Cette année, les quatre parcours de Nuit Blanche sont renommés des constellations. La constellation Saint-Louis, donc qui nous emmène du Collège des Bernardins jusqu'à l'Hôtel de Ville et aux Halles. Le parcours du Paris du Moyen-Âge, de ses ruelles, de ses découvertes à l'angle des rues, qui a vraiment cette dimension presque très intime et chargée d'histoire de Paris. Plus tard, la constellation des Invalides, qui est avec une traversée des Invalides au travers des monuments qui ponctuent les Invalides. La constellation de la Villette, avec le parc de la Villette et l'ensemble de ses institutions. On aura ici des concerts, des performances, des installations. Et puis la constellation dorée, donc à la Porte Dorée jusqu'aux eaux de Vincennes, qui est, avec son rocher, bien entendu, aussi une forme de monument, je dirais, emblématique de Paris. C'est vrai qu'il y a cette dimension dans Nuit Blanche de sortir finalement l'art contemporain des lieux où on a l'habitude de le voir. C'est pas franchir la porte du musée, c'est plutôt le musée qui descend dans la rue d'une certaine manière et la proposition artistique qui descend dans la rue et qui s'applique à la ville.
Et oui, si vous êtes parisien et noctambule, ce samedi 6 octobre 2018 est fait pour vous ce soir. C'est donc Nuit Blanche dans la capitale. À l'occasion de cette 17e édition, toujours gratuite et accessible à tous, de très nombreux événements sont organisés. Des centaines d'œuvres d'art investiront plusieurs lieux et les rues. Parmi elles, les réalisations de notre invité. Il est artiste, lauréat du prestigieux prix Marcel Duchamp en 2015. Il ne cesse d'interroger les moyens, les supports et la puissance allégorique des images. En revenant sur un certain nombre de sujets comme les zones désertiques, le monde ouvrier, la fin des utopies révolutionnaires ou encore le génocide des Arméniens. Mélie Kohanian, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors de quelle constellation êtes-vous, puisque le directeur artistique de Nuit Blanche 2018 nous parlait des quatre constellations parisiennes ce soir?
Donc j'ai pas retenu le nom de la constellation précisément, mais je connais le lieu où tout ça va opérer. Et donc c'est au Collège des Bernardins ce soir. Voilà, avec un dispositif relativement éphémère par rapport à mon travail de manière générale, puisqu'il s'agit d'une performance musicale de 18 trombonistes en simultané.
De 18 trombonistes en simultané?
Absolument. À l'intérieur de ce bâtiment qui est assez incroyable, et avec une sonorité très spécifique. Donc ça m'intéressait de pouvoir travailler là. Et je remercie en tout cas Sarah Dufour, qui est la programmatrice en fait du Collège des Bernardins, avec qui on a constitué un peu la chose. Et voilà, on a fait des répétitions hier et on y retourne là bientôt. Et c'est la sonorité vraiment...
très particulière. Donc je disais que vous travaillez sur les images et la puissance allégorique des images, mais vous travaillez aussi sur le son, Mélie Kohanian.
Alors il y a un projet, ce projet est vraiment très spécifique, et il a commencé il y a un an, il s'appelle Borderland en fait, et ce serait à l'image de ce que représente cette œuvre, une œuvre qui chercherait à survivre à sa propre condition d'être une œuvre. Alors je sais que tout ça peut paraître un peu abstrait.
Sûrement. Oui, voilà. Surtout à 7h14 un samedi matin, vous l'avouer.
Autant pour vous que pour moi. Mais en dehors de ça, voilà, l'histoire serait qu'elle fait... Bon, à l'origine en fait du film, puisqu'il s'agit d'un film au départ qui a été montré à la Biennale de Lyon en septembre dernier.
Et là, on entend déjà des bruits de trombone, hein, de ce Borderland Trio.
Voilà, et en fait, le film se passe et projeté sous forme de quatre écrans dans un espace où le spectateur se retrouve au milieu des quatre écrans. Et le film est une adaptation, part d'une adaptation d'un livre de 1969 de Rudy Wurlitzer, scénariste américain, un peu queue de comète en fait de la Beat Generation. Et donc il y a une adaptation du livre qui est faite à l'intérieur de ce récit-là des années 60 et 70, on va dire, avec Dominique Quesada, fin complice de cette aventure. On a inséré un groupe de migrants contemporains et donc a lieu dans ce film un conflit de narration.
Je crois qu'il faudra aller voir, hein.
Bah, y a
écoutez,
rien à voir.
Ah, voilà. Mais non, mais c'est ça, écoutez, entendre.
Donc, à venir écouter, en fait, la transposition.
Et bien comprendre
en fait, tout ça.
La traduction de ce que vous nous Absolument. Décrivez, Mélie Kohanian. C'est la première fois que vous participez à la Nuit Blanche?
Alors, je ne crois pas.
Vous n'en êtes pas sûr?
Non, ça, c'est pour vous tendre une perche sur la notion de mémoire. Mais non, en 2003, je crois que j'avais fait une intervention au bord du stade de Gentilly. J'avais produit un 100 mètres de décoratif, donc des couloirs en fait d'athlétisme, mais produit par une figure orientale qui était déformée à la longueur de ce 100 mètres en fait.
Voilà aussi,
c'était
Ami
Barak à l'époque. C'était encore une fois, c'était le début de Nuit Blanche à l'époque, donc c'était C'était autre chose.
Voilà. Le directeur artistique de cette année, Gaël Charbot, disait dans ce petit teasing de La Nuit Blanche qu'on a entendu tout à l'heure, que l'idée c'est sortir l'art contemporain du musée et de le mettre dans la rue. Est-ce que vous êtes sensible à cette démarche, Méliko Agnan ?
Alors, du point de vue de l'artiste, le musée n'est qu'une étape en fait de son œuvre. Donc moi je vais peut-être encore un peu plus loin, et Borderland cherche à exprimer ça, c'est qu'en fait, pour moi, c'est l'œuvre qui doit aller encore plus loin. C'est plutôt ce qu'on produit qui doit encore aller plus loin, c'est-à-dire aussi sortir des musées, mais on est déjà sorti des musées en tant qu'artiste depuis relativement longtemps, et puis historiquement, on peut le vérifier, depuis les années 60, dans des expériences où la question muséale et toutes ces questions-là n'étaient pas la finalité de l'art. Donc voilà, je laisse le propos en fait au curateur de parler depuis un point de vue de curateur, depuis un point de vue d'artiste, la notion intérieure ou extérieure, et ça fait une petite connexion avec ce qui va se passer ce soir, c'est que dans le dispositif du Collège des Bernardins, tout ce concert, erreur, puisque je ne vais pas dire le mot concert, puisque c'est pas un concert, c'est une performance musicale, on va dire, et une expérience musicale, elle est amplifiée en fait et retransmise à l'extérieur. Quand on a fait les tests hier et quand on passe de l'intérieur avec sa réverbération de ses 18 trombones et qu'on sort à l'extérieur avec son amplification, on a une sensation très étrange, c'est que l'architecture n'existe plus et qu'en fin de compte, il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur.
Méliko Agnan, vous me tendiez tout à l'heure une perche sur la mémoire, disiez-vous. Est-ce que vous vous souvenez que vous proposez ce soir une deuxième performance dans le cadre de La Nuit Blanche ?
Malheureusement, j'ai un trou de mémoire. Non, effectivement, ouais, on m'a invité à participer plutôt à une, je ne sais pas comment le nommer, c'est très dur, effectivement, puisque le format est un peu nouveau, en tout cas, sur le pont des échanges
sur le pont Alexandre III, sous le pont d'ailleurs, sur le pont ou sous le pont Alexandre III, on verra ce soir.
C'est ça. Et donc, et puis en fait, j'ai répondu à cette invitation d'une manière un peu spécifique en interrogeant en fait donc c'est organisé par Thanks for Nothing,
qui est une plateforme philanthropique.
C'est ça. Et donc, il y a des désirs de créer des liaisons entre l'art et la société, on va le dire de cette manière-là, de manière spécifique pour l'instant. J'ai essayé d'interroger en fait leur questionnement, c'est-à-dire j'ai proposé un objet qui va être inséré directement dans une des associations donc qui est mise en liaison avec les artistes.
Pour être clair, c'est une sorte de troc des échanges, et pour être encore plus clair, nous sommes au téléphone avec la grande organisatrice de cette soirée troc artistique sur le pont Alexandre III à Paris. Elle est galeriste et présidente de Thanks for Nothing, Marine von Schönbeck. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous au téléphone. C'est vous donc qui dirigez cette plateforme philanthropique. Juste un mot sur Thanks for Nothing avant d'en venir à cette proposition que vous faites dans le cadre de La Nuit Blanche. C'est quoi Thanks for Nothing ?
Alors, Thanks for Nothing, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme philanthropique que nous avons montée il y a un peu plus d'un an maintenant. Nous sommes 5 femmes issues du monde de l'art contemporain et nous avons voulu en fait lier un engagement qui était jusque-là personnel dans l'humanitaire et un engagement social avec notre passion, qui est notre métier également, on a cette chance-là, qui est de collaborer avec des artistes. Et donc tous les projets de Thanks for Nothing, depuis maintenant plus d'un an, mettent en dialogue, comme Élie l'a souligné, les artistes, la voix des artistes, des collaborations artistiques avec systématiquement un dialogue engagé avec des associations que nous soutenons avec un impact réel.
Et donc de ce soir, dans le cadre de La Nuit Blanche, Marine von Schönbeck, vous souhaitez transformer le pont Alexandre III en pont des échanges le temps d'une nuit, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment une métamorphose du pont Alexandre III, puisqu'on y propose trois choses. D'une part, un très grand festival de performance qui se tiendra de 19h à 2h du matin, avec quelques artistes absolument formidables que je vais citer. Donc Laure Prouveau, Noé Soulier, Christodoulos Panayotou, Petra Gala, qui viendra annoncer son prochain ballet, Lorenzaccio, Valérie Mregen, Alex Cecchetti, Uriel Barthélémy et Wael Alcac.
Et l'idée, c'est que les spectateurs sont invités à venir donner un livre, un instrument de musique, un chevalet, des feutres, des craies, des harmonicas, au profit d'associations comme Bibliothèque Sans Frontières, comme la Fondation Abbé Pierre. Et en échange, ils auront droit à des performances artistes, comme celle de Méliko Agnan ou comme une danse de Marie-Claude Pietragala.
Oui, absolument, c'est ça. C'est vraiment créer un dialogue entre la proposition artistique engagée des artistes et 5 ONG que nous abriterons sur le pont Alexandre III. Ces ONG œuvrent toutes dans le champ de l'insertion des publics défavorisés grâce à l'accès à la culture. C'est le cas donc de la Fondation Abbé Pierre, qui sera physiquement présente, de l'Atelier des artistes en exil, Bibliothèque sans frontières avec qui Mélic engage un véritable dialogue, Culture du cœur et Music Fund. Chacune seront là avec leurs membres, leurs bénévoles pour parler de leurs actions. Et on pourra, tous les visiteurs de la Nuit Blanche pourront contribuer à les soutenir par un don d'un objet culturel qui leur seront intégralement reversés à la fin de l'événement.
Bon, c'est à quelle heure ?
Eh bien, écoutez, ça commence à 19h, donc sur le pont Alexandre III.
Et c'est sur le pont Alexandre III. Et c'est sur le pont Alexandre III et pas dessous. Merci beaucoup, Marine von Schönbeck. Lélie Cohagnon, donc, vous allez participer à ce pont des échanges avec l'édition, si j'ai bien compris, d'un objet. Vous nous disiez tout à l'heure, cet objet, c'est un livre ?
C'est ça. Puisque une des ONG, donc, quand on m'a proposé le projet, donc, il y avait l'énoncé des 5 ONG qui étaient reliées à tout ça. Et il y en a une qui s'appelle Bibliothèque sans frontières. Et donc ça m'a intéressé d'effectivement produire un livre qui sera inséré dans ces bibliothèques donc, qui sont dispersées et qui agissent dans différents pays dans le monde. Voilà, et donc ce livre est fait bizarrement de plus de 300 pages blanches.
Un carnet en fait.
Alors, non, puisqu'il prend la forme d'un
livre. Je vous taquine.
Oui, j'entends bien. donc il n'y a qu'un titre pour finir, c'est Conscientia, donc c'est le mot conscience et sa racine latine, et puis sa définition en première page. Après ça, effectivement, c'est 300 pages blanches.
Un livre est fait pour rester, un livre est fait pour durer. Vous qui êtes très sensible à la conscience, la conscientia, mais aussi justement à la façon dont les œuvres peuvent être liées au temps, à la mémoire, ça n'est pas si étonnant que vous proposiez, Mélie Cohagnon, un livre, même s'il a des pages blanches. Les pages blanches sont faites pour être noircies. Vous avez très récemment créé une œuvre qui est une œuvre de mémoire. Quand je dirais très récemment, l'œuvre est ancienne, elle a été déjà montrée, même en 2015, et même pour ça, je crois que vous avez été récompensé. En fait, le pavillon arménien de la Biennale de Venise a été récompensé du Lion d'Or. C'est un mémorial sur le génocide arménien que vous aviez donc créé il y a quelques années. Mais quand je dis récemment, c'est qu'il a été inauguré cette année, il y a quelques mois, à Genève. Il y avait eu des polémiques, hein, ça revient de loin, peu importe. Mais l'idée, c'est que ces réverbères sont posés, enfin, à Venise, ils étaient posés en tout cas, comme un cimetière de réverbères, enchevêtrés les uns les autres sur un socle tout tordu. Et qu'à Genève, ils sont debout, vos réverbères, Mélie Cohagnon. Ils sont debout, même si les lampes pendent comme des saules pleureurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Venise et Genève ?
C'est la période, on va l'appeler, de la possibilité que cette œuvre n'ait jamais lieu, ou la possibilité qu'effectivement l'action qui avait, ou la décision qui avait été prise de montrer malgré tout l'œuvre à la Biennale de Venise, sous une forme absolument démantelée, aurait pu avoir, sans être une pression, en tout cas une réflexion sur l'intention de cette œuvre et sa qualité, entre guillemets, artistique, en amont, en parallèle, de la question politique que cette œuvre pose, puisque le processus était enrayé plutôt par l'aspect diplomatique et politique de l'œuvre, et non pas sa qualité, entre guillemets, encore une fois. Et donc, j'avais essayé de motiver tout le monde pour produire l'œuvre malgré tout et l'exposer de manière démantelée. C'était à double tranchant, c'était son état final qui était là, puisque en fait l'œuvre ne trouvait pas place, donc à l'image de ce qu'elle représentait, pour finir, il y avait une espèce de boucle allégorique comme ça qui se produisait entre le refus en fait de cette œuvre et le refus des trajectoires justement migrantes et la question de la terre d'accueil et le pourquoi de tout ça. Et cette espèce d'amas d'acier, pour finir, qui représentait 4 tonnes d'acier, où tous les éléments étaient prêts, en fait, il suffisait de les assembler pour qu'effectivement le monument existe. Bref, tout ça a procédé à un gros questionnement, plus cette récompense, en fait, je pense, a participé aussi à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, au bout d'un moment, une prise de conscience de la part de certaines personnes engagées sur le projet qui a fait que cela a été rendu possible par une bataille plutôt de conscience qu'autre chose.
Et l'œuvre finale, donc, est debout.
Est debout, dans le parc Tremblay.
C'est un monument,
Genève, voilà.
Sol pleureur en bronze, avec des lettres, nous disait Aïgoui Chichkoyan, qui connaît très bien l'alphabet arménien, avec des lettres, comme des lettres en fait, de l'alphabet arménien. C'est-à-dire qu'elle penche vos lampes, c'est une larme chromée, hein.
Voilà, il n'y a plus de lampe,
qui retombe,
en fait. Hein.
Oui, c'est
donc,
ça.
Mais
ça
à la place de la lampe, voilà, absolument. Il y a une forme de larme en inox polymiroir, donc reflétante, prenant et réfléchissant tout le contexte, en fait. Et il y a 9 réverbères, donc, espacés dans ce parc, éclatés. Donc, c'est plus non plus un monument de forme classique, c'est plutôt un anti-monument, puisque cet éclatement, en fait, présuppose que le trajet même des personnes pour le relier, ou la présence dans l'espace public de tout ça, est à pratiquer.
Mais Ligoanian, vous êtes donc d'origine arménienne. Est-ce que c'est une identité qui compte dans votre travail? Et est-ce que vous êtes en deuil aujourd'hui, comme dans votre pays, puisque l'Arménie est en deuil national après la mort de Charles Aznavour cette semaine?
Effectivement, mes origines comptent, comme pour tout le monde, je suppose. Effectivement, cette trajectoire singulière, on va l'appeler, et ce destin de ce peuple-ci, par exemple, dont on vient, par ce trajet du rapport à un génocide. Une personne comme Charles Aznavour représente en fait beaucoup pour une communauté à ce moment-là. Et effectivement, en dehors de sa carrière purement artistique, il y a une présence, en tout cas, un peu ambassadrice de questions, encore une fois, pas simples. Le négationnisme n'est pas réglé en ce qui nous concerne. Il n'y a jamais eu de reconnaissance, donc, jusqu'à ce jour, du génocide par les oppresseurs, on va dire, tout simplement. Et que, voilà, il faut se construire avec ces idées-là, et ces personnes-là sont importantes pour la communauté.
Ça vous ferait plaisir qu'on entende une chanson ?
On peut pas ne pas avoir... Laissons place à tout ça. Ouais.
Alors, on a choisi, non pas votre préféré, qu'on a beaucoup entendu cette semaine, Ligoanian, une chanson un peu moins connue, choisie par Aïgoui Chichkoyan, « Je t'aime » à IME.
Je t'écris, c'est plus romantique comme un amant du temps jadis. Sur un papier couleur de lys à l'encre bleue, je m'applique. Quand ma plume manque de chance, fait en sortant de l'encrier une tache sur le papier que je déchire et recommence. Je t'aime, A-I-M-E, t'aimes le cœur en feu. Faut-il un X à feu? Ça me pose un problème. Allez, je barre feu, mais je garde le thème. Oh, je t'aime, A-I-M-E. Simplement, j'y ajoute ces mots à la folie. Mais soudain, j'ai un doute. Folie avec un L, un seul L ou bien deux. Deux L seraient mieux, tellement plus joli et bien sûr plus vivant comme une envie que le bonheur agrafe comme un papillon bleu au cœur d'un amoureux inquiet de l'orthographe.
Ligoanian, on vous retrouve dans 2 minutes, juste après les titres de l'actualité sur France Culture. Il est 7h30. Vous chantez aussi du Aznavour, Sophie Delpont ?
Bien sûr.
On vous écoute.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un appel à manifester partout en Europe pour défendre le droit de sauver des migrants en Méditerranée. C'est en soutien à l'Aquarius que ces rassemblements arborant la couleur orange sont prévus, alors que le navire humanitaire est toujours à quai à Marseille. Dans une demi-heure, nous irons au Brésil rejoindre notre envoyé spécial, Olivier Poujade, la veille du premier tour de l'élection présidentielle pour laquelle le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est le grand favori. Aux États-Unis, c'est l'ultime vote aujourd'hui pour l'investiture de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Les sénateurs devraient confirmer à une large majorité la nomination du juge, accusé pourtant d'agression sexuelle. Les indécis hier ont basculé du côté du oui, nous dira notre correspondant à New York. Au Cameroun, le président Paul Biya devrait sans surprise décrocher un 7e mandat à la tête du pays demain, même si 9 candidats sont en lice. Pourquoi une telle hégémonie? Valérie Crova a assisté à un meeting de son parti, on entendra son reportage dans le journal de 8h. Oleg Sentsov arrête sa grève de la faim. Le cinéaste ukrainien emprisonné en Russie l'a annoncé dans un communiqué transmis hier soir à la presse. Une décision pour éviter d'être nourri de force. Le réalisateur de 42 ans, originaire de Crimée, refusait de s'alimenter depuis le 14 mai dernier pour demander la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens en Russie. En France, les communistes votent jusqu'à aujourd'hui pour décider de suivre ou non la direction du parti et sur une stratégie pour tenter d'enrayer le déclin du PCF. Analyse de Stéphane Robert dans le journal de 8h. Et puis Alexandre Benalla a été interrogé pour la première fois hier par un juge d'instruction à Paris pendant plusieurs heures. L'ex-collaborateur de l'Élysée est mis en examen pour violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insigne réglementé, recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et recel de violation du secret professionnel.
Tous ces titres seront développés dans le journal de 8h. À tout à l'heure, donc, Sophie, 8h. D'ici là, à 7h40, la fabrique médiatique sur les violences conjugales, les médias et la justice, un an après le déclenchement de l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui s'en est suivi. Nous serons en compagnie des journalistes Corinne Audouin de France Inter et de Lénaïque Bredoux de Mediapart. Et puis, dans un instant, bien entendu, nous retrouverons notre artiste invité, Melik Ohanian.
Chaque dimanche sur France Culture à 7h, question d'islam par Aleb Bencher.
Jamais la problématique islamique n'a été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci. Entre la surmédiatisation et la méconnaissance, l'émission Question d'islam aborde ce sujet avec calme, sérénité, distanciation.
Cette semaine, l'islam et la révolution sexuelle. Invité Nadia Elbouga, sexologue, féministe et musulmane. Comment est abordée la sexualité dans la religion islamique? Revenant sur le discours fondamentaliste pour le pourfendre, elle rêve de contribuer à changer en douceur les mentalités dans la communauté arabo-musulmane. Question d'islam, ce dimanche à 7h05 et sur franceculture.fr.
Notre invité ce matin est l'artiste Melik Ohanian, prix Marcel Duchamp en 2015, invité de La Nuit Blanche pour deux performances, en tout cas une performance musicale et puis la participation au troc des échanges sur le pont Alexandre III, vous nous en parliez tout à l'heure. Mais je voudrais vous parler d'un autre sujet, Melik Ohanian. On entend beaucoup depuis plusieurs mois en tout cas des discussions, des pétitions autour du statut de l'artiste en France. Je vais vous poser la question de but en blanc. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre statut d'artiste et est-ce que vous vous sentez soutenu par le ministère de la Culture?
C'est vrai qu'on a un tournant un peu, du trajet que je fais personnellement, c'est-à-dire lié à mon âge. Je veux dire, on a grandi quand même sous une tutelle et une présence du ministère de la Culture très forte, ce qui a permis effectivement, ce qui est mon cas en l'occurrence, de faire une école en province, au loin de Paris, de la réalité.
Les Beaux-Arts.
Les Beaux-Arts, oui, bien sûr, pardon. Et de là, avoir des points de relais qui sont ces points qui étaient les DRAC, qui étaient les FRAC, qui étaient donc des structures qui étaient soutenues par le ministère de la Culture et qui étaient surtout incarnées par des personnes aussi, qui devenaient les relais d'une possibilité de rencontre. Et ce qui a fait qu'on est remonté, on va dire, d'un peu loin, en bas, comme ça, vers Paris. Effectivement, ces relations-là étaient très fortes, constituaient aussi un peu ce qu'on appelle une communauté artistique. Effectivement, aujourd'hui,
elle n'existe plus.
C'est pas qu'elle n'existe plus. On a toujours du mal à dire, on passe d'une chose à une autre, mais effectivement, ça n'est absolument pas la même. Elle ne fait les codes et les règles du jeu, entre guillemets aussi, tout ça, ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes.
Melik Ohanian, qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'art comme les Beaux-Arts?
Ce qu'on apprend, ce que je dirais aujourd'hui, c'est marrant, c'est que j'aurais appris à ce moment-là qu'un jour je devrais désapprendre. C'est-à-dire que je pense que la réalité pour un artiste, c'est de savoir désapprendre en permanence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Mais c'est une forme... Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. C'est-à-dire que pour apprendre, il ne faut Il faut désapprendre. Voilà, je vais rester dans cette abstraction, mais c'est on n'apprend pas grand-chose dans une école des beaux-arts. On apprend à être, on apprend à vivre, on apprend à mais on n'apprend pas à vivre. Donc on vit en définitive, et puis on rencontre, et puis il faut voilà, c'est une structure où on a la chance où pendant 5 ans. Il n'y aurait pas de pression extérieure qui permettrait à une personne de se développer, d'épanouir en fait des champs d'expérience et des champs de réflexion. Et puis après, si cette personne est suffisamment courageuse, parce que je pense que pour être artiste en définitive, la seule chose, c'est pas la seule chose, mais en tout cas le courage est vraiment une chose importante, quoi. Il faut y aller et puis expériencer encore le monde longtemps.
Alors je voudrais vous faire écouter, si vous en êtes d'accord, un artiste qui a occupé le poste de directeur des Beaux-Arts, mais de Paris, pas l'école que vous avez faite, Mélie Hagnon. Il était directeur des Beaux-Arts jusqu'à il y a très peu de temps, c'est Jean-Marc Bustamante. Il était l'invité de la Grande Table en 2015 et je lui avais demandé justement ce qu'on enseigne quand on est un artiste et quand on enseigne aux Beaux-Arts de Paris. Écoutez sa réponse.
Dans un conservatoire de musique, on forme des interprètes. Dans un conservatoire d'art dramatique, on forme des comédiens. Nous, on forme rien, parce qu'on n'a pas d'interprète. Ça s'interprète pas, l'art. Eux peuvent attendre un Beethoven ou peuvent attendre un Beckett, mais nous ne pouvons attendre que des Matisse, non pas des interprètes de Matisse, comme le sont les pianistes, comme le sont les comédiens. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver, et on est là dans un cas de figure qui est unique.
Mélie Hagnon, on forme des Matisse. On espère former des Matisse.
Alors j'espère qu'on puisse former d'autres types d'artistes aussi. Mais je pense qu'on forme pas en fait. Je pense qu'encore une fois c'est un temps où on va aller où on va faire une grande plongée intérieure et une grande projection extérieure quoi. C'est un privilège de pouvoir faire ça pendant 5 ans, de s'y concentrer. Et puis, c'est pas une somme d'exercices, en fait, pratiques qui permettront à tout ça de se développer. En fait, tout ça a à voir avec une temporalité, un temps qui est différent. Pendant 5 ans, on peut s'y exercer, et puis voilà, et puis s'il y a quelque chose à dire, ben, ça produira quelque chose, et puis après, les trajectoires sont
différentes, bien sûr. Heureusement. Mélie Hagnon, vous avez été lauréat en 2015 de ce prestigieux prix de l'art contemporain qui est le prix Marcel Duchamp. À partir du 10 octobre et jusqu'au 31 décembre, le Centre Pompidou à Paris accueille l'exposition des 4 finalistes du prix de cette année qui sera décerné au moment de la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC. On y trouve Clément Cogitor, Mohamed Bourouissa, Tuvan Tran et Marie Voynier. Vous connaissez leur travail?
Oui. Ouais.
Vous vous intéressez aux jeunes, oui.
Oui. Moi, les rapports filiatifs, ils vont dans un sens, mais ils vont dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de notre part à être aussi ce qu'on a eu la chance de rencontrer, c'est-à-dire des points d'appui pour la génération derrière ou des points d'appui, c'est pas sans prétention. Encore une fois, c'est plus de l'amitié. J'ai croisé Mohamed Bourouissa hier par hasard. Mais ce qui est bien, c'est qu'on prend le temps d'une discussion, une demi-heure au milieu de rien, et on se raconte un peu nos trajets, notre trajectoire et nos expériences. Donc oui, c'est des rapports. Bon, pas avec tous, hein, bien entendu, mais voilà.
Mélie Hagnon, on arrive au terme de cette conversation avec vous. Il est 7h39, on va terminer avec votre choix musical, en lien avec votre performance musicale de ce soir. À l'origine, disons, il y a cette chanson, Man of Constant Sorrow, qui a été reprise par un certain nombre d'interprètes, dont cette reprise ou cette création par Bob Dylan. Non, pas une création, une interprétation. Bob Dylan.
Ah, I'm a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say goodbye to Colorado, where I was born and partly raised.
Merci beaucoup, Mélie Hagnon.
Merci. merci
d'être venu ce matin. Vous serez donc ce soir au Collège des Bernardins et au pont Alexandre III à Paris, puisque vous avez le don d'ubiquité dans le cadre de la Nuit Blanche. Tous les renseignements, bien sûr, sur notre page internet. Et la Nuit Blanche, c'est aussi sur France Culture à 22h avec l'ami François Angelier, focus sur les attractions de la Nuit Blanche parisienne avec toutes les constellations. À 23h, une vie d'artiste, le magazine de la création par Aurélie Charron, avec de nombreux invités également. Et la Nuit Blanche sera noire et bleue avec Philippe Garbi de minuit à 7h.